Du 22 au 25 avril, le Comité international olympique, CIO, faisait une tournée dans les Alpes françaises sur les sites pressentis pour accueillir les Jeux olympiques d'hiver en 2030. Désormais seule en lice, cette visite est une étape phare pour la candidature française. La décision finale est attendue en juillet 2024. Le mercredi 24 avril, la délégation du CIO est accueillie à Briançon pour une visite de Serre Chevalier, du Fort des Têtes et de Montgenèvre. Parallèlement à cette visite, une centaine d'opposants manifestent au Champ de Mars à Briançon. Pour davantage de précisions sur ce mouvement, nous avons rencontré Stéphane Passeron du collectif NoJO et Stéphane, porte-parole de la commission d'évaluation indépendante pour la cohérence, la transparence et les impacts des grands événements sportifs internationaux. À noter que dans l'esprit d'une expression équitable, nous avons sollicité la mairie de Briançon ainsi que le département des Hautes-Alpes. Notre démarche est restée sans réponse jusqu'à ce jour, mais notre offre leur reste ouverte. Pour l'heure, nous vous proposons de prendre connaissance des arguments contre l'organisation des JO dans les Alpes françaises.
Moi, je suis un ancien athlète de haut niveau d'équipe de France de ski de fond. J'étais 20 ans en équipe de France de ski et j'ai même participé aux Jeux Olympiques à Vancouver. Et voilà, donc moi personnellement, c'est juste un peu de courage de dire à un moment, malheureusement, je répète malheureusement, je pense qu'on peut plus se permettre ce genre de grandes manifestations, elles sont trop impactantes pour l'environnement et indirectement, socialement, puisque ça va être lié évidemment.
Je m'appelle Stéphane, je suis briançonnais d'origine et je suis né à Briançon et j'y vis. Bon, j'ai une casquette plutôt monument historique, c'est-à-dire que je me suis toujours penché sur l'histoire briançonnaise et j'ai déjà mené une lutte contre le projet du Fort des Têtes d'il y a 4 ou 5 ans. Sinon, à côté de ça, là aujourd'hui, sur le projet JO, je suis là avec une casquette de porte-parole des experts qui ont sorti un rapport indépendant concernant la candidature des JOP 2030. Et j'ai aussi la casquette du rédacteur en cours d'un dossier citoyen qui se base sur, en gros, tout ce qui a pu être dit, lu et expliqué à droite ou à gauche sur les JO 2030, mais le point de vue citoyen.
Stéphane Passeron, vous représentez aujourd'hui le collectif NoJO. Quel est ce collectif ? Est-ce que vous pouvez nous le présenter ?
Alors, le collectif NoJO, il s'est formé il y a déjà plusieurs années en arrière, puisque nous sommes des lanceurs d'alerte. Ça fait longtemps qu'on sent venir cette histoire de candidature. On a essayé d'interpeller la population, mais en fait, tout le monde était tellement focalisé sur Paris que personne ne croyait à cette candidature de 2030 dans les Alpes. D'autant plus au vu de la situation économique, de la situation écologique et tout ça. Donc, on a eu beaucoup de mal au départ. Et puis, il y a à peine un an, même moins d'un an à peu près, et ben, ils ont regroupé les deux régions, Sud et Aura, pour faire une grande candidature entre Nice et, je rigole pas quand je dis ça, les Pays-Bas. Puisque la dernière, ils voudraient peut-être envisager d'aller faire l'anneau de vitesse, de patinage de vitesse aux Pays-Bas. Vous imaginez, donc c'est toutes les Alpes qui vont être impactées par ces Jeux Olympiques de 2030. Et donc, ce collectif NoJO qui a commencé dans les Alpes du Sud, maintenant il a essaimé en Savoie, Haute-Savoie, Isère, il y a des collectifs NoJO un peu de partout. Et on essaye d'interpeller, de faire des réunions publiques. On a des sondages pour dire l'avis de la population, qui n'est pas entendu du tout.
Simplement pour mieux situer, quel type de profil on retrouve dans ce collectif ?
En fait, on trouve tout type de profil. Il y a des militants des soulèvements de la Terre ou d'Extinction Rébellion. Ça, c'est des militants purs et durs, je dirais. Puis il y a aussi de la population, des gens qui voient au quotidien leurs problématiques. Donc on retrouve aussi des sportifs. Je pense à Franck Picard, Marie Dorin, qui se questionnent énormément sur ce genre d'événement. Il y a aussi beaucoup de saisonniers. Des saisonniers qui voient bien que leur gagne-pain dans quelques années ne va plus exister parce que la neige fond et malheureusement. Et donc, ils sont là-dedans aussi pour dire que, alors je vais un peu aussi tout de suite dans les arguments, mais qu'au lieu de mettre 5 milliards sur ces Jeux Olympiques, on ferait bien de commencer à anticiper le changement qu'il va falloir faire pour les Alpes.
Passons aux arguments, justement. Quels sont vos arguments contre les JO ?
Nous, on parle souvent de déni pour cette candidature. Le premier, c'est le déni démocratique. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune concertation à aucun moment avec personne. C'est-à-dire qu'ils ont décidé à deux ou trois personnes, le président du CNOSF, le président de la région PACA et le Sud, pardon, et Renaud Muselier et le président de la région Aura, Laurent Wauquiez, ont décidé à trois personnes. À aucun moment, on a eu un débat. Et ça, c'est le premier et principal presque problème. Parce que s'il y avait débat, les gens seraient informés de ce que ça veut dire derrière. Même on a demandé à avoir des débats avec des politiques, tout ça, mais en fait, ça, à chaque fois, ils refusent tout débat avec nous.
Dans le rapport, est-ce que vous avez pris en compte cette question démocratique ?
Bien évidemment, on a des sociologues, des gens qui ont bossé là-dessus, qui sont très affûtés sur la question. Et la première chose qui saute aux yeux, ne serait-ce que techniquement, c'est le déni démocratique. On a deux des présidents de région qui se téléphonent, qui le disent en plus, qui affirment dans la presse qu'ils ont fait ça à la Corsaire. Le mot, c'est pas moi qui l'invente, c'est le président de la région Aura qui l'a dit. Donc là, déjà, on s'aperçoit que le déni démocratique est phénoménal. Alors, et là où c'est extrêmement grave, je trouve, c'est que ça va complètement à l'encontre de tous les préceptes olympiques. Il suffit d'aller sur le site du CIO et on s'aperçoit dans les deux premières pages ou les trois premières pages qu'on parle de respect, qu'on parle de démocratie et qu'on a des termes magnifiques. Donc en fait pour nous, c'est un gros écran de fumée, tout ça. Et c'est là où tout commence, en fait. Et ensuite, quand on voit qu'au niveau local, on n'est pas entendu, que quand on veut bien nous répondre, qu'on nous renvoie dans les cordes pour des broutilles, on se rend compte qu'ils ont peut-être beaucoup de choses à cacher là-dedans et qu'il ne faut pas qu'on aille dans le détail parce que ça risque de déranger beaucoup de monde.
Ça se fait pour les JO de demander l'avis de la population ?
Alors, il y a eu plusieurs candidatures pour ces Jeux Olympiques ou des débuts de candidatures pour ces Jeux Olympiques. Par exemple, Vancouver, qui a eu les Jeux Olympiques en 2010, eh bien, la population qui a été concertée a refusé. La Suisse, qui par deux fois a refusé les Jeux Olympiques. Donc à chaque fois qu'on a demandé l'avis à la population, à chaque fois, ça a été refusé. Donc moi, je veux bien qu'on aille dans une catastrophe, mais on y va au moins qu'on soit conscient et qu'on y aille tous ensemble. Mais là, non, c'est imposé, c'est complètement imposé.
Le collectif Nos JO demande un référendum. Quel serait le résultat, selon vous ?
Alors, si je me base sur tout ce que j'ai vu à droite ou à gauche, sur ce que j'entends quand les gens tractent, sur ce qui se passe en Savoie et autres, bien évidemment que après, c'est très subjectif quand même. Le résultat, ce serait à minima, surtout si les gens sont informés, parce qu'un référendum, on ne peut pas le faire sans informer les gens, avec une bonne campagne d'information, pourquoi pas neutre, avec des débats, surtout des débats, parce que nous, on demande du débat. Je pense qu'il n'y aura pas photo. Surtout avec ce qui se passe au JO de Paris et surtout avec les montants dont on entend parler au niveau local.
Nous, on se base sur les sondages qui existent, qui ont été faits par des médias. Je prends, pour pas le nommer, mais Le Figaro. Et bien, dans le journal Le Figaro, c'était 61% des gens qui étaient contre cette candidature. Je prends encore dernièrement un sondage qui a été fait par un élu du Mont-Blanc, un député du Mont-Blanc qui est à LREM, donc macroniste. Et bien 82% selon son sondage à lui étaient contre cette candidature. Il y a plein de sondages, il y en a eu un aussi dans Le Progrès, il y a eu plein de sondages. Et à chaque fois, ça a été des gens, dès qu'ils commencent à être informés, ils se rendent compte de la folie de ce projet.
Dans vos arguments, on retrouve aussi, peut-être en seconde place, vous allez me dire, mais le déni climatique.
Oui, bien sûr, déni climatique. Et malheureusement, le climat est en train de nous bousculer. Vous avez vu, pour beaucoup des auditeurs, vous avez vu ce qui s'est passé au Qatar. C'est les gens les plus riches du monde. Ils étaient sous l'eau et c'était la catastrophe. Je veux dire, c'est partout. Nous, cet hiver, on n'a pas travaillé. En moyenne montagne, il n'y a pas eu de neige. Ils disent qu'ils veulent faire le biathlon au Grand Bornand. Au Grand Bornand, il n'y a jamais eu de neige depuis des années. Donc c'est le biathlon, il va falloir faire de la neige artificielle, il va falloir fabriquer des lacs artificiels partout. Et ça, c'est des millions et des milliards. C'est ça le problème. Et ils parlent de construire deux patinoires à Nice. C'est quand même très chaud comme région. Et ils veulent faire deux patinoires. C'est un déni complet de la problématique.
Pourtant, ces JO sont présentés comme des JO durables. C'est mis en avant quand même dans cette candidature, notamment par le fait que des infrastructures sont réutilisées. Vous n'y croyez pas ? Pourquoi ?
Non, on n'y croit pas du tout. Réutiliser 95% des infrastructures, elles datent de 1992, il faut se rendre compte. Ça n'a plus rien à voir. Et même s'ils disent que ça polluera moins que le coup précédent, il n'empêche que moins, c'est déjà trop. Un Français doit diviser par 5, je crois, à peu près, ses émissions de CO2. Dire par 5, c'est pas une bricole, c'est énorme. Le travail qui nous est demandé pour les générations futures. Hein. Et malheureusement, je répète malheureusement, on doit faire fi de ce genre d'événement.
Des JO durables, moi, je serais le premier à applaudir. Sauf que c'est absolument impossible. On voit qu'on va faire déplacer des gens qui vont arriver du bout du monde. Ils ne vont pas venir à la rame, ils vont venir en avion. Les avions aujourd'hui qui vont tourner à l'hydrogène ou à l'électricité, ça n'existe pas. Il va falloir attendre 100 ans pour y arriver. Donc déjà là, il y a un gros problème. Et puis ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on est sur des territoires qui sont petits. On n'est pas dans des grands espaces, on n'est pas sur Paris. On est vraiment dans un territoire enclavé où déjà la nature souffre à cause du réchauffement climatique. On est les premiers dans les Alpes, là, à morfler, c'est le mot, hein. On s'aperçoit que les écosystèmes changent et c'est pas en rajoutant du feu sous la marmite qu'on va arrêter de faire cramer le casse-croûte, quoi.
Un argument est mis en avant, celui du désenclavement de la vallée, notamment par le ferroviaire. Le développement du train, c'est quelque chose qui est demandé dans les vallées depuis longtemps. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Eh ben nous, on en pense depuis 30 ans. Nous, ça fait 30 ans au moins, qu'on demande que ça soit mis en place. Et là, d'un coup, ils disent, ah ben grâce au jeu, ça va ruisseler, et comme par hasard, on va mettre du train en 6 ans, alors qu'on n'est pas capable de maintenir le train de nuit entre Briançon, Paris-Briançon, Briançon-Paris. Mais il y a aussi dans les projets de faire des doubles voies le plus possible entre La Solse et Briançon, c'est-à-dire pour ce qui nous concerne localement. Ils essaient de nous faire croire qu'avec plus, on va faire moins. Non, il faut faire moins, c'est tout. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut avoir conscience qu'il va falloir aller à l'essentiel. On n'est pas obligé du tout de passer par la case Jeux Olympiques.
Alors moi, je suis tout à fait pour le désenclavement par le train, surtout un train avec une ligne électrifiée. Sauf que si on regarde la faisabilité et les montants que ça représente, en 2030, on n'y sera jamais. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que tout se reporte sur le routier. Et le routier, c'est du doublement de voies là où on peut le faire. Donc de l'emprise nouvelle sur des terres agricoles. Des flux de véhicules qui, eux, vont buter toujours sur des points noirs. Sauf si on fait sauter les points noirs. Et là, je veux parler très précisément du point noir de la Roche de Rame, où les habitants locaux réclament une déviation depuis très très longtemps. Et là, avec le projet JO qui avance à fond, ça va se transformer en une route qui va continuer de passer au milieu du village, avec des expropriations des maisons associatives et des maisons particulières, de façon à laisser passer une double voie en plein milieu du village, et de façon éternelle. Donc pour eux, c'est mort. Voilà l'héritage des JO.
Selon vous, serait-il possible d'avoir des JO qui seraient durables ?
Ben, malheureusement, et c'est moi qui dis ça alors que je les ai faits, hein, et j'en suis bien conscient, malheureusement, non. Je pense qu'on ne peut plus. C'est pas possible. Déjà, la vie au quotidien, faire une vie au quotidien durable, soutenable, c'est même pas durable, c'est soutenable, c'est déjà très très compliqué. Je donne un chiffre aux auditeurs. Le service public en France, juste les services publics, les hôpitaux, les routes, la poste, tous nos services publics, c'est déjà par habitant 2 tonnes d'équivalent CO2 par an et par habitant. Sachant que les limites planétaires sont à 1 tonne 8, vous imaginez l'effort. C'est-à-dire qu'il va falloir diminuer dans tous les domaines. Donc, comment on peut faire je sais que c'est la mode du en même temps, mais en même temps dire qu'il faut qu'on fasse des efforts et en même temps nous faire croire qu'on va pouvoir faire déplacer des milliers de touristes et d'athlètes et de journalistes, ainsi de suite, avec des avions. Vous allez voir Paris, ça va être un carnage, forcément, forcément.
Un autre déni que met en avant le collectif, c'est le déni économique, et notamment concernant les financements. Qu'est-ce que vous reprochez aux financements ?
Alors déjà, pour être clair, les financements, on ne sait absolument pas du tout comment ça va se passer. On entend quelques incantations, hein. On voit passer de ci, de là, des participations de la région, des participations des communes, l'État qui, lui, couvrirait tout. Donc ça, c'est certain, parce que le CIO s'engagera jamais là-dessus s'il n'est pas couvert par l'État. Donc en fait, aujourd'hui, côté financement, on en est à faire des promesses qui sont engagées au niveau légal de façon ferme et définitive sans connaître aucun montant. Donc comment voulez-vous qu'on soit serein et très positif sur les financements qui sont liés à ces JO, sachant qu'on nous promet de l'investissement privé, mais lequel, où, comment, en sachant que toutes les infrastructures, c'est à la charge des collectivités, notamment ici dans les Hautes-Alpes, et bien les infrastructures routières, c'est le département. Sur l'aménagement des villages olympiques, toute la viabilisation et autres, c'est à la charge de la commune. Et donc, en fait, on n'a aucun montant. Par contre, on sait qu'on va payer et assez cher, quoi. Et ensuite, on a l'exemple de tous les autres JO. À chaque fois, le budget prévisionnel était de X et on l'a multiplié par 2, par 3, sans souci. Et c'est toujours, toujours, toujours la collectivité qui compense parce que l'État et les collectivités s'engagent en signant des contrats hôtes, villes hôtes, où l'État, avec ses lois d'exception, qui font qu'on court vers un mur financier sans savoir ce qu'il y a dedans.
Voilà, le financement, ils annoncent 1,8 milliard, il n'y a aucun chiffrage. Dire même les élus de la région Aura, nous sommes en très bonne relation, non, dans les commissions Jeux Olympiques, n'ont aucun chiffre, ils ne savent pas. Ils ont annoncé 1,7 milliard, je crois, mais ils ne savent pas où ça va. Et on sait très bien qu'à chaque fois qu'ils ont annoncé un chiffre, ça s'est à minima triplé. Donc nous, à minima, ça sera 5 milliards. Paris, ils en sont déjà à plus de 10 milliards, alors qu'ils avaient annoncé 5 milliards. Et donc nous, on préférerait que cet argent il soit mis dans la reconversion des Alpes, qu'on commence à anticiper. Et le problème de ces Jeux Olympiques, c'est que ça empêche tout un chacun, toute la population, de se prendre en main et se dire, bon ben voilà, comment on voit nos Alpes vraiment dans le futur ?
Pourtant, on entend souvent que les retombées économiques des JO sont favorables aux territoires qui les ont accueillis.
Ah ben, intéressez-vous à Grenoble, à Albertville. Nous, on était encore en réunion avec l'ancien maire d'Albertville la semaine dernière. Ben, il dit que non, Albertville, ils ont eu sur le coup, le BTP a beaucoup travaillé. Alors voilà, on a bétonné, super. Donc est-ce qu'on se pose la question déjà de bétonner, est-ce qu'il faut encore continuer à bétonner? Et ensuite, derrière, il y a eu un appel d'air, parce qu'évidemment, une fois que ça a été tout fait, au lieu de distiller les travaux sur un certain nombre d'années, on fait énormément de travaux en peu d'années, et derrière, il y a une recrudescence de chômage, et ainsi de suite. Donc économiquement, en plus, ça coûte énormément. Et puis de toute façon, même que ça marcherait, mais on n'en est plus là. Il faut quand même tout mettre à l'aune de nos problèmes environnementaux, je pense, parce que si on continue à bétonner, ça ne va pas aller mieux, hein. Ça ne va pas nous aider dans le futur. Les seules valeurs qu'on a dans les Alpes, c'est encore avoir un peu de terrain qui est limite encore à peu près propre, avec un air à peu près pur. Je ne pense pas qu'en agrandissant l'aérodrome de Saint-Crépin, ça va faire du bien aux Alpes.
Donc rien ne pourrait développer des emplois en plus, des opportunités touristiques sur le long terme peut-être?
Alors au niveau des emplois, j'ai un exemple très concret. En fait, le CIO verrouille les choses. Il ne faut pas croire que ce sont les entreprises locales qui vont maîtriser les choses. Dans le package des engagements qu'on fournit au CIO, on fournit aussi le fait de leur laisser choisir leurs entreprises. Ils ont des entreprises affiliées, ils ont des liens financiers avec des entreprises habituelles, des gros groupes qui vont travailler en faisant venir leurs employés. Et au niveau local, on aura peut-être de la sous-traitance ou des choses comme ça. Et ça va être très temporaire. Et surtout, ce qu'on voit toujours au niveau des JO, c'est qu'on a un gros investissement avant JO. Et ensuite, la bulle se crève. Et ensuite, derrière, on n'a plus rien.
Une information a été divulguée il n'y a pas longtemps, disant que le Fort des Têtes pourrait éventuellement accueillir le village olympique. Et ce pourrait être ensuite un bâtiment utilisé pour des logements, pour les saisonniers éventuellement, des logements sociaux. Est-ce que ce ne serait pas une bonne chose pour Briançon ?
Alors déjà, ce qu'on peut voir à Briançon, c'est que c'est vrai, il manque du logement social. Les gens, la vie est beaucoup trop chère et donc les jeunes s'en vont, peuvent pas se loger. On a, pour preuve, on a deux classes qui ferment cette année, deux classes de primaire. On a des classes au collège et lycée qui se vident. C'est pareil un peu partout dans le secteur. Donc oui, c'est vrai qu'on a besoin de logements sociaux. D'accord. Le logement social au Fort des Têtes, on va dire que ça pourrait être une idée qu'il faut regarder de près. Sauf que quand on regarde de près, on s'aperçoit que c'est complètement... ça ne peut que être caduque sur plusieurs axes. Le premier axe, c'est quand on regarde les bâtiments. Les bâtiments qui ne sont pas du tout faits pour l'habitat, c'était des bâtiments faits pour les militaires. Donc on a des murs qui font 3 mètres d'épaisseur, des salles voûtées, des fenêtres toutes petites. Donc en gros, un endroit invivable. C'est très 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 complexe d'arriver à faire du logement social là-bas dedans. Ensuite, il y a la situation du Fort des Têtes qui est quand même excentrée par rapport à tout, quoi. Et en général, les gens qui sont dans les logements sociaux ont des problèmes notamment de mobilité. Donc ça peut poser aussi un gros problème là-dessus. Ensuite, on a aussi la faisabilité financière. C'est quand on voit un bâtiment comme celui-ci qui va coûter une fortune à la réhabilitation. Quand je dis une fortune, c'est vraiment une fortune. En plus, il y a des règles monuments historiques à respecter. Donc, en plus, ils ont prévu de créer un téléporteur, enfin ce qu'ils appellent maintenant un ascenseur valéen pour monter les gens au Fort des Têtes à partir certainement du Champ de Mars. Donc en fait, ce sont des charges qui sont colossales. Et comment pouvons-nous, avec des logements sociaux ou des travailleurs saisonniers, comme on a entendu, et éventuellement du logement intermédiaire, arriver à financer ça et à surtout à entretenir un site comme celui-ci, avec 4,5 km de remparts qui ont 300 ans. Donc pour nous, on n'y croit pas du tout. Surtout que le Fort des Têtes, c'est un monument historique et que les monuments historiques sont une des plus grosses niches fiscales de France. Donc ça veut dire que là-haut, on défiscalise à gogo quand on est propriétaire. Et donc ça va intéresser que les gens qui ont de l'argent. Donc moi, je crois que le logement social et le logement saisonnier, ça va être un alibi.
Stéphane Passeron, pour conclure, une dernière question. Que voudriez-vous pour le sport, alors ?
Si les JO faisaient que la qualité de l'enseignement du sport s'améliore, on le saurait. Donc si on a des milliards à mettre, ou mettre des millions, déjà avec des millions, et bien qu'on fasse faire du sport à nos enfants dans les écoles, qu'on paie des éducateurs sportifs pour faire du sport, qu'on fasse des épreuves sportives locales. Comme on doit faire de l'agriculture locale, on doit faire du sport local, comme on doit faire de la culture locale. On ne peut pas dire on va déplacer des gens d'un bout à l'autre de la terre pour faire du sport. C'est pas ça qui changera le problème du sport. On aime le sport. Moi, je suis le premier à aimer courir la montagne et à faire du sport. Mais il faut relocaliser tout, comme dans toute notre société.